Nous avons déjà entendu un texte dans l'Ancien Testament que Rachel a lu, donc c'est le pays d'Israël, le peuple d'Israël qui est dans le désert. Alors nous continuons à lire dans Nombre 22, versets 1 à 38. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi, Balaam ?» Donc Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir avec vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur, je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes, il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà trois fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour ? Ai-je l'habitude de te faire ainsi ?» Il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà trois fois ? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. L'ânesse m'a vu, et elle s'est détournée devant moi déjà trois fois. si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie sauve. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu t'étais placé au-devant de moi sur le chemin, et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait. Il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la limite de l'Arnon à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam, « N'ai-je pas envoyé des messagers auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur ?» Balaam dit à Balak, « Voici, je suis venu vers toi maintenant. Voici, je suis venu vers toi. Maintenant, me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. » Pour aller un petit peu plus vite et pour ne pas rallonger la lecture, on va passer au chapitre 24, les versets 1 à 14. Donc à trois reprises, Balak, le roi de Moab, essaye d'inciter Balaam à prononcer une malédiction sur le peuple d'Israël. Et à la fin, on est à la troisième oracle de Balaam prononcé par rapport au peuple d'Israël. Donc au chapitre 24, versets 1 à 14. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël campé selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit, « Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Qu'elles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux, et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag, et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. » La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé, et voici tu les bénis déjà trois fois. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrais les honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Balaam répondit à Balak, et n'ai-je pas dit au messager que tu m'as envoyé, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel. Et maintenant voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Voilà. Donc, après plusieurs générations d'esclavage en Égypte, Dieu, le Dieu d'Israël, l'Éternel, a envoyé Moïse pour libérer le peuple élu descendant d'Abraham. Dieu a promis le pays de Canaan aux Israélites après la traversée du désert. Comme Rachel l'a lu, Moïse vient d'envoyer 12 hommes, un de chaque tribu, pour se renseigner sur la terre promise et les gens qui vivaient dans ce pays. Après 40 jours d'espionnage et de collecte de renseignements, les envoyés rendent compte de ce qu'ils ont vu. Seul Caleb, de la tribu de Juda, encourage le peuple à prendre possession du pays promis, et ce, malgré la présence de guerriers de grande taille. Pour les autres, la conquête est suicidaire, et le peuple, dans sa majorité, souhaite le retour en Égypte. Le peuple d'Israël ne croit pas que l'Éternel leur donnera le pays de Canaan. Le peuple est incrédule et Dieu sanctionne ce manque de foi. À cause de cette génération de pleurnichards déprimés et sans foi, le peuple de Dieu va errer pendant 40 années dans le désert, alors que la distance à parcourir était de quelques jours pour arriver dans le pays promis. La promesse de Dieu est que ce sera la nouvelle génération qui fera la conquête du pays de Canaan, ce pays où coule le lait et le miel. Voilà pour le contexte de notre histoire du jour. Donc deux personnages originaux et curieux, Balak et Balaam. Aucun des deux n'est un exemple à suivre, et pourtant Moïse a écrit cette histoire. Une histoire de chef d'État, plus ou moins bien entouré et renseigné, et qui a peur de perdre son statut lors d'un éventuel affrontement avec le peuple de Dieu. Une histoire d'un devin, d'un magicien de réputation internationale, dont on pense qu'il peut influencer le cours de l'histoire en manipulant l'opinion publique et en contrôlant les médias de l'époque. Au cours de cette histoire, Dieu intervient épisodiquement et à plusieurs reprises directement, personnellement, ou en envoyant l'ange de l'Éternel pour ralentir le devin et son âne, histoire de lui donner le temps de réfléchir. Premier personnage, donc Balak, roi de Moab. Le début de l'histoire est un petit peu confus parce qu'on parle de Moab, on parle de Balak. En fait, c'est Balak le roi de Moab, donc Moab et Balak, c'est un peu confondu, quoi. Donc c'est le roi. Israël venait de détruire les Amoréens, donc c'est dans les histoires qui sont racontées avant, qui s'étaient opposés à leur passage vers le pays de Canaan. Ces mêmes Amoréens, quelques années plus tôt, avaient gagné une bataille contre Balak. Donc Balak avait légitimement raison de craindre l'affrontement avec Israël. Il prend peur pour lui et pour son peuple. Sa stratégie contre le danger qu'il imagine est surprenante. Une alliance avec un peuple voisin, les Madianites. Parce qu'à deux, on est plus fort qu'à tout seul. Et en même temps, une ruse, l'appel à un personnage qui fait payer ses services, mais de grande renommée dans le secteur. C'est le devin, Balaam, celui dont on dit que ce qu'il bénit est béni et ce qu'il maudit est maudit. Balak fait partie de ce personnage qui côtoie, qui observe le peuple de Dieu et qui évite le contact direct. D'après l'histoire de la Bible, il aurait même quelques liens de parenté avec l'ancêtre Abraham, puisque la Bible nous dit que les Moabites donc, étaient les descendants de Lot, qui était le neveu d'Abraham. Donc c'est des lacs cousins du peuple d'Israël. C'est marqué dans Genèse 19, versets 36 et 37. Si les services de renseignement de Balak avaient bien fonctionné, et s'il avait cherché dans la bonne direction pour connaître le plan de Dieu pour le peuple élu, il aurait découvert qu'en fait il ne risquait rien, parce que Dieu lui-même avait dit, en Deutéronome 2, verset 9, et c'est Moïse qui raconte, « N'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays, c'est aux enfants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. » Donc en fait, il ne risquait rien, mais il ne le savait pas parce qu'il n'a pas cherché dans la bonne direction. Si Balak avait cherché dans la bonne direction, malgré qu'il ne fasse pas partie du peuple de Dieu, il aurait économisé son argent, son énergie, son temps de travail. Sa peur de l'avenir se serait aussitôt dissipée. Aucun affrontement direct n'était à l'étude de la part du peuple de Dieu. Aujourd'hui encore, les gens qui tiennent le pouvoir, qui dirigent les différents États, réagissent comme Balak. Aucun ne cherche à savoir vers quel but Dieu veut amener son peuple et toute l'humanité avec lui. Jésus nous a demandé de prier « Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, et son règne est un règne de paix, de justice et de joie. » Et nous constatons autour de nous que c'est la guerre, l'injustice, la souffrance et la tristesse. Nos dirigeants sont comme Balak, mal conseillés, mal renseignés, paniqués par l'existence de ceux qui sont différents de nous et qui s'approchent de nos frontières. Balak néanmoins ne cherche pas l'affrontement direct avec le peuple d'Israël. Il essaie de la jouer un peu plus subtile. Il pense mobiliser des forces occultes par l'intermédiaire de notre deuxième personnage du jour, Balaam. Un devin, un charlatan célèbre à la réputation douteuse, qui vend des paroles de bénédiction ou de malédiction suivant son inspiration du moment et le montant de l'argent présenté par son client. Balaam, le devin, connaît les forces cachées du bien et du mal, et c'est pour cette raison qu'il a une certaine notoriété. Il sait, lui, spontanément, que le peuple d'Israël est le peuple du Dieu puissant. Ce qu'il peut opposer en face n'est peut-être pas à la hauteur de ce que demandent les dirigeants de Moab et Madian. Apparemment, ce personnage, Balaam, qui n'est absolument pas présenté comme un homme de Dieu, connaît néanmoins l'Éternel et il a besoin de s'impliquer dans un réel combat spirituel pour donner sa réponse. Le texte nous dit que Dieu vint à Balaam et lui donne cette réponse ferme et sans aucune ambiguïté. « Tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. » Donc Dieu s'adresse à quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu. Cette histoire de Balaam est racontée par Moïse et elle s'est déroulée il y a 3500 ans à peu près. Aujourd'hui, en ouvrant les yeux sur le monde qui nous entoure, nous découvrons des situations comparables. Nous, peuple de Dieu, chrétiens, nous marchons vers le pays promis où Dieu régnera avec sa paix, sa justice et sa joie. Et autour de nous, les gens qui nous observent, qui nous craignent, qui cherchent à manœuvrer, peut-être même à détruire ce que nous cherchons à construire. Il y a même des gens qui cherchent à mobiliser les forces occultes pour contrarier les plans de notre Dieu et ce combat spirituel existe. Nous en sommes bien conscients. Mais, dans cette situation particulière, le fait est qu'au moment où le combat a lieu, aucune personne du peuple de Dieu n'intervient pour négocier, pour prier ou pour agir sur l'événement. C'est Dieu lui-même qui s'impose et les forces occultes ne peuvent que reculer et se taire. Dans différents récits bibliques, nous comprenons que Dieu fixe les limites de ce que l'ennemi peut se permettre. Je pense à l'histoire de Job, où Dieu permet que Job perde tout ce qu'il avait de bien autour de lui, mais la limite était qu'il reste en vie. Cette limite, c'est Dieu qui l'avait fixée. Pour prendre un exemple du Nouveau Testament, le soir du repas de Pâques, où Jésus annonce qu'il va être trahi par un des siens et que même Pierre va le renier trois fois avant le chant du coq, en Luc 22, versets 31-32, Jésus annonce, en même temps, qu'il a prié pour Pierre, pour qu'après cette terrible attaque, il y aura un lendemain meilleur. Au cours de l'histoire de l'humanité, de nombreuses personnes, de nombreux courants de pensée, ont toujours essayé de faire disparaître le peuple élu, le peuple qui croit et qui honore l'Éternel, que ce soit le peuple d'Israël ou le peuple chrétien. Nous savons que nous sommes en marche vers le pays promis. Nous sommes assurés que l'Éternel est vivant, qu'il veille et qu'il intervient dans la marche du monde. Il peut parler directement à Balaam. Il peut compliquer, ralentir le trajet des gens mal intentionnés, comme l'ange de l'Éternel qui se met en travers du chemin de Balaam et oblige l'âne à faire des détours et autres vacheries à son maître. Cette histoire de Balaam et de son ânesse fait partie de ces anecdotes tragicomiques qu'on rencontre à la lecture de la Bible. On imagine la scène. Le déplacement de Balaam à la rencontre de Balak, roi de Moab, est hasardeux et compliqué. Balaam, le devin, qui est censé deviner ce qui va se passer, est nerveux. L'âne, cette pauvre monture innocente, qui d'habitude fait bien son travail, fidèlement et sans broncher, n'avance pas comme il faut. Le voyage se passe mal. Rien que des petits contretemps. Un écart dans les champs, une espèce de sortie de route, un frottement contre la paroi de la montagne, un peu de tôle froissée, et un arrêt en pleine route, une panne mécanique. L'énervement touche à son comble la capacité de Balaam de prendre du recul et un temps de réflexion n'existe plus. En fait, ce qu'il est en train de faire n'est pas bien. Comme si le fait de frapper un animal pouvait changer son comportement. Il faut, en fin de compte, qu'une ânesse prenne la parole. « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà trois fois ?» Et là, Balaam se réveille. Le texte dit que l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et il vit l'ange de l'Éternel, son épée nue à la main. Balaam voulait tuer son ânesse et l'ange de l'Éternel lui fait comprendre que si sa monture ne s'était pas détournée, c'est lui, Balaam, qui aurait été tué sur place. Et c'est parce qu'il était sur un chemin de perdition. Chacun de nous a déjà vécu des situations comparables. On avance vers un but, un objectif qui nous semble être notre voie, et en cours de route, des petites contrariétés, des obstacles non prévus, des énervements à répétition finissent par nous amener à ouvrir les yeux sur la réalité qui nous entoure. Et cela nous aide à prendre conscience, si nous sommes sur le bon ou le mauvais chemin. Pour certains, l'ange de l'Éternel se présente physiquement. Pour d'autres, des parents, des frères et sœurs peuvent intervenir pour que nos yeux s'ouvrent. Et comme dans notre histoire, cela peut être un âne et pas forcément un docteur en théologie qui nous aide à ouvrir les yeux sur notre propre vie. Devant le rapport de force entre l'ange de l'Éternel et l'équipe du demain, Balaam propose de faire demi-tour et laisser tomber l'affaire et de rentrer tranquillement à la maison. Et c'est là que c'est parfaitement intéressant. Balaam, sur son chemin de perdition, reconnaît qu'il a péché. Dans cet affrontement spirituel, Dieu a montré sa force supérieure. En quelque sorte et en d'autres mots, Dieu pourrait dire: tu choisis d'aller là où tu veux, mais sur ce chemin, sache que mon ange intervient et qu'il peut mettre fin à ton voyage à tout moment. Néanmoins, tu iras au bout de ton idée, mais là-bas, tu seras forcé de m'obéir parce que je suis l'Éternel, tout-puissant, et que l'homme ne peut pas aller contre l'histoire avancée. Ce chemin pour chacun de nous au quotidien, ce sont nos loisirs, nos études, nos formations, notre métier, nos passions, nos choix familiaux. Lorsque les difficultés surviennent, essayons de voir au-delà de ce qui nous énerve et pourrait nous rendre violents pour nous soumettre à la volonté de l'Éternel. Pour conclure, à la lecture de ce récit de Moïse, on se rend compte que l'Éternel, notre Dieu, reste le maître des événements sur terre, et c'est parfaitement rassurant pour nous qui sommes ses enfants. À son peuple, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il promet de les installer dans le pays de Canaan, malgré la mauvaise volonté et le manque de courage des Israélites. En dehors de son peuple, Dieu intervient directement pour éviter des situations qui augmenteraient encore le malheur et la souffrance des hommes. Il s'oppose victorieux et avec conviction aux forces occultes mises en œuvre par Balaam. Il y a des limites que les personnes qui n'ont pas fait le choix de se soumettre à la volonté de Dieu ne peuvent pas franchir. De manière toute humoristique, Balaam passe pour plus bête que son ânesse sur qui il est assis. L'âne se met à parler, tellement le manque de lucidité, l'aveuglement de Balaam est caricatural. Néanmoins, malgré sa rencontre avec Dieu, malgré son expérience spirituelle intense, Balaam retourne à ses occupations lucratives de devin païen. Balak, roi de Moab, reçoit la leçon de sa vie. Les biens matériels, l'ambition politique, la manipulation des médias, la sollicitation des forces occultes ne permettent pas de s'opposer au projet de Dieu pour son peuple. En nous intéressant à l'actualité, certains événements, certaines décisions prises par nos dirigeants vont nettement dans le sens de ce que Dieu attend de l'humanité. Plus de paix, plus de justice, plus de joie. Dieu intervient directement. Mais un homme ou une femme qui un jour a prononcé une bonne parole, une parole de bénédiction, ne fait pas de cette personne automatiquement un exemple à suivre aveuglément. Vivre une expérience spirituelle, une confrontation, une rencontre avec Dieu doit nous amener à changer de vie, à abandonner nos pratiques païennes anciennes pour vivre dans la proximité de notre Père Céleste. Cette histoire de Balaam et de Balak est plus importante qu'il n'y paraît, parce qu'elle est évoquée à 3 reprises dans la Bible. Elle est évoquée par le prophète Michée, Michée 6, verset 15. Elle est évoquée dans le 2e épître de Pierre, 2 Pierre 2, versets 15 et 16, et même dans l'Apocalypse de Jean, verset 2, chapitre 2, verset 14. Nous voilà pleinement rassurés. Les faux prophètes, les païens, les idolâtres ont annoncé et annonceront encore la fin du monde. Mais ces événements sont sous contrôle de notre Père Céleste qui aime malgré tous ses enfants. Amen.